Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Mais ceux-ci ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, ce grand dragon, ce serpent ancien, qui est nommé le diable et Satan, qui séduit le monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et il alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Ces paroles de l'Apocalypse résument l'histoire des hommes sur la terre. Tout se ramène à cette lutte religieuse, à la guerre de Lucifer contre Saint Michel, du mal contre le bien, du démon contre Dieu. Nous sommes plongés dans cette lutte. Par le baptême, nous sommes engagés dans la milice céleste dont Saint Michel est le chef. Les individus, les sociétés, les nations doivent choisir entre les biens de la terre, domaine de Satan, et les biens du ciel, royaume de Dieu. Puisque nous sommes chrétiens, il est bon de prendre connaissance de notre ennemi et de l'état de la situation. Alors, voyons d'abord Lucifer et son armée de révoltés. Vous savez que Dieu a créé des milliards de milliards d'anges, répartis en 9 cœurs. Lucifer était le premier des séraphins, le chef de cette multitude, le plus proche de Dieu. Dans sa chute, il entraîna un tiers des anges de tous les cœurs. Ces esprits, dont l'enfer est le lieu propre, n'y sont pas confinés. Loin d'être étrangers à notre monde, il habite en certaines parties, dans les régions supérieures de l'air, dit saint Paul, et dans les lieux arides de la terre, dit notre Seigneur. Cette libre circulation des démons est un peu mystérieuse. Cependant, cela fait partie des plans de Dieu. Notre-Dame nous apprend, d'autre part, à la Salette, qu'en l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer, ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu. Cette armée des démons est donc redoutable. Il ne faut pas croire, dit Bossuet, que leur force a été épuisée par leur chute. Toute l'Écriture les appelle forts. Notre Seigneur appelle Satan le fort armé. Qu'est-ce que ça signifie? Non seulement Lucifer et ses anges ont la nature angélique avec toutes ses facultés, mais encore ils ont leurs armes qui sont conservées, c'est-à-dire leurs inventions et leurs connaissances. Notre Seigneur appelle Lucifer encore prince de ce monde, et saint Paul, le gouverneur de ce monde. Et pour ne laisser aucun doute sur sa puissance, saint Paul enseigne qu'il est le Dieu de ce monde. Et effectivement, Lucifer essaie de se faire passer pour Dieu, de se faire rendre le culte dû à Dieu. Son péché, au commencement, a été un péché d'orgueil. Il envia la perfection de Dieu. Il prétendit l'égaler, le supplanter. Il était tellement imbu de lui-même, ébloui par ses qualités, sa puissance, puissance supérieure à toutes les autres créatures. Après sa chute, eh bien, il est animé d'une haine perpétuelle contre Dieu. Il est jaloux de l'homme, créature bien inférieure aux anges. est destiné à combler le vide laissé par les anges rebelles. Alors ils s'efforcent de contrarier les plans de Dieu, pour le priver, le plus possible, de la gloire qu'il aurait dû recevoir de sa création. Il va donc utiliser toutes ses facultés, toutes ses connaissances, toute sa puissance pour corrompre les hommes, les détourner de Dieu et se faire rendre à lui-même les honneurs dus à Dieu. Il reçoit des vœux, il se fait ériger des temples, on lui rend des prières, des litanies, etc. Avant l'arrivée de notre Seigneur et le développement de l'Église, Lucifer était vraiment le prince de ce monde. Toutes les nations avaient des dieux, et ces dieux, dit saint Paul, sont des démons. Notre Seigneur, en venant dans le monde, l'a vaincu. Il a fondé son Église, et les apôtres, puis les missionnaires, ensuite, ont chassé les démons des nations, l'une après l'autre, renversant les idoles, détruisant les temples, libérant les hommes de son esclavage. Mais depuis que le christianisme décline, Satan et son armée remportent victoire sur victoire. Leur emprise sur le monde et les âmes augmente de jour en jour. Son culte est accepté, reconnu publiquement, même dans les nations chrétiennes. Prenons un exemple. Aux États-Unis, à Charleston, au suprême directoire dogmatique, on peut voir une chapelle luciférienne avec un autel d'une richesse inouïe. Cet autel est surplombé d'une statue en or massif de Lucifer, elle déployée, semblant descendre du ciel, tenant un flambeau dans la main droite et de la gauche une corne d'abondance répandant les fruits de la terre. De son pied droit, il foule un monstre à trois têtes, représentant la papauté, la royauté et la tyrannie militaire. Au-dessus de la tête de Lucifer, le triangle divin, mais pas comme dans nos églises qui représentent la Trinité, ce triangle a la pointe tournée vers le bas et il est entouré d'éclairs. En France, la situation n'est pas meilleure. Nous voyons les effets des sectes sataniques, des francs-maçons. La fête de l'enfer à Clisson attire de plus en plus de monde chaque année. On profane les cimetières, on casse les statues de la Vierge, on incendie chapelles et églises. Et pour terminer, on brûle Notre-Dame de Paris, le symbole de la France chrétienne. Tout cela dans la plus complète impunité. L'emprise satanique sur le monde, et en particulier sur la France, devient de plus en plus évidente et ne cesse de croître. On pourrait pousser le cri de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort dans sa prière embrasée. Au feu, où sont les Saint-Michel? Et que pouvons-nous faire? Eh bien justement, recourir à Saint-Michel. Saint-Michel, dit Pie IX, est le plus capable d'exterminer les sectes maudites filles de Satan, qui ont juré la ruine de la société chrétienne. Et nous devons croire, dit Saint-Pie X, que la lutte actuelle se terminera par le triomphe avec le secours de l'archange béni. Alors essayons de mieux connaître Saint-Michel, l'antagoniste de Lucifer et son vainqueur. Qui est-il? Vous savez que lorsque la Sainte Écriture donne un nom à un personnage, ce nom signifie tout ce qu'il est. Le nom de Saint-Michel signifie « qui est comme Dieu ». C'est le cri du cœur, c'est l'aveu d'amour envers la suprématie absolue de Dieu sur tous les êtres. C'est son nom de triomphe. Il signifie tout l'hommage qu'il fit à Dieu de lui-même. Saint Michel, par ce cri, est le chef de la milice céleste. Il est la plus belle des créatures après la Sainte Vierge. Dieu l'a doté d'une intelligence claire, vaste, profonde, d'une volonté, d'une force, d'une puissance, d'un amour surnaturel lui permettant de réaliser parfaitement les intentions du Créateur. Et il se plaît dans l'humilité de n'être qu'une créature recevant absolument tout de Dieu. Comme la reine des anges, il reconnaît que Dieu a fait en lui de grandes choses. Il a été l'ange du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le substitut de Dieu dans la majeure partie des théophanies bibliques, l'ange du buisson ardent, l'ange du Sinaï, le protecteur de Moïse, le chef de l'armée de l'Éternel. Il a été l'ange consolateur de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Il est le grand protecteur de l'Église et de la France, fille aînée de l'Église. Pour connaître un être, une personne, il faut voir ses actions qui manifestent ses qualités, ses capacités. Un pieux auteur dresse un rapide portrait de Saint Michel, tiré de ses nombreuses interventions dans l'histoire de l'humanité. Résumons-le. Saint Michel est un esprit de flamme, brûlant, enthousiaste. Il est juste, donc sévère et exigeant. Il veut que les créatures parviennent au ciel par le renoncement et le sacrifice. Il est patient. Pensons à Moïse, au peuple hébreu dans le désert. Que de fois il a dû finalement rengainer son épée, si on peut dire, suite aux infidélités du peuple hébreu. Il n'a pas châtié à chaque fois. Donc il est compatissant aux déficiences, aux surprises de la faiblesse. Saint Michel est possédé par la vérité. Il ne peut endurer l'erreur. Il n'est pas œcuménique pour deux sous, ni libéral. Il est le champion de la vérité intégrale. Saint Michel est franc. Il ne peut supporter la mauvaise foi, l'amitié trompeuse, la trahison camouflée. Il est doux envers les âmes loyales et simples, par exemple envers Sainte Jeanne d'Arc, qu'il va former pendant plusieurs années pour sa mission. Il est fort et vaillant, il aime les saints et les martyrs, les soldats qui meurent pour la patrie. Il est pur, il se plaît avec les vierges et avec les pénitents. Pensons à Sainte Marie-Madeleine dans sa grotte. C'était peut-être l'ange Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, qui chaque jour la montait sur le Saint-Pilon. Il est beau et aimant parce qu'il reflète la perfection divine. Alors, avoir un tel protecteur, doué de tant de qualités, est une grande consolation, une grande espérance. Et justement, Saint Michel est le protecteur spécial de la France. Mais pourquoi cela ? Pourquoi la France ? Eh bien, parce que la France, quand elle était baptisée à Reims, par Saint Rémy, en la personne de Clovis, Saint Rémy a dit au roi « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa mission. » Vous retiendrez les mots « rudement châtié ». Il n'a pas dit détruit. Alors, pour accomplir cette mission, eh bien, le bon Dieu donne les moyens de l'accomplir. Et c'est pour ça qu'il va donner l'archange Saint-Michel. De même que Dieu a confié la tribu de Juda, le peuple élu, à Saint-Michel dans l'Ancien Testament, de même, dans le Nouveau Testament, dès que la France est baptisée, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la tribu de Judas, de l'Israël chrétien, eh bien le bon Dieu la confie à saint Michel. Et les dons de Dieu sont sans repentance. Saint Michel lui-même le confirmera. En 708, il apparaît à l'évêque d'Avranches, en Normandie, et lui demande de bâtir en son honneur, sur le mont Tombes, une église où il put être honoré comme patron spécial et protecteur de la France. Le mont Tombes est devenu depuis le mont Saint-Michel. Pendant plus de 1000 ans, les rois de France se sont mis sous sa protection. Ils se sont consacrés à Saint-Michel ainsi que leur royaume. Ils ont fait des pèlerinages au mont Saint-Michel et ils n'ont pas eu à s'en plaindre. Saint-Michel les a toujours défendus contre leurs ennemis. Et aux heures critiques, Saint-Michel était présent. Par exemple, sous Charles VII, alors qu'il y a grande pitié au royaume de France, le dauphin, réfugié à Bourges, prie Saint-Michel. L'archange, en réponse, apparaît à Sainte-Jeanne d'Arc. « Je suis Michel, le protecteur de la France. » Et il l'instruit sur sa mission. Il la forme pendant plusieurs années et Jeanne va sauver la France. Mais depuis la Révolution, c'est la décadence. Le culte à Saint-Michel continue de diminuer d'année en année. Satan a pris possession petit à petit du royaume, car les chefs ne recourent plus à Saint-Michel dans les difficultés. Saint-Michel est toujours aussi puissant, il est toujours prêt à intervenir, mais si on ne l'appelle pas, il ne bouge pas. Il est au chômage. Saint-Michel est pourtant prêt à secourir ceux qui lui font confiance et qui l'honorent. Un petit exemple, pendant la Grande Guerre, en 1918, dans un village de la Marne. C'est le curé du village qui rapporte ce fait. Lors de la contre-offensive, pendant la bataille de la Marne, en 1918, il y avait autour de ma paroisse, dit-il, un dépôt de plus de 3 millions d'obus, dont près d'un million d'obus à gaz. Durant cette période, pendant 2 mois environ, donc c'était long, les avions ennemis n'ont cessé de circuler au-dessus du village. Les bombes et les obus tombaient de tous côtés. Une seule bombe, un seul obus tombant sur les dépôts de munitions aurait provoqué une explosion formidable, détruisant tout le pays et asphyxié ses habitants. Devant ce danger immédiat, j'ai mis ma paroisse sous la protection de Saint-Michel. Fixant son image à la chair dans l'église, récitant chaque jour l'exorcisme de Léon XIII et promettant d'ériger une statue au Saint-Archange si nous sortions de ce grand danger. Pendant ces 2 mois, les villages environnants ont beaucoup souffert. Au milieu de tout ce fracas, je suis resté à mon poste tous les jours. Pas un obus n'est tombé sur le village. Pas un carreau n'a été cassé dans le village. Les paroissiens n'en revenaient pas. Alors nous avons érigé dans l'église une statue à Saint-Michel Archange pour le remercier. Alors recourons nous aussi à Saint-Michel en le priant. Vous trouverez sous le portique un feuillet, vous pourrez vous servir, avec des prières à Saint-Michel. Et surtout, efforçons-nous d'appartenir tout de bon à la milice chrétienne, en imitant les qualités de Saint-Michel. En effet, si les chrétiens pêchent mortellement, de fait, ils appartiennent à Lucifer. Bien sûr, ils vont regagner la milice de l'archange, mais enfin, ce ne sont pas des soldats très, très sûrs. Imitons Saint-Michel Archange, son amour de la vérité, en combattant courageusement le combat de la foi pour l'amour de notre Seigneur. Notre Seigneur est la vérité. Imitons la franchise de l'archange Saint-Michel dans tous nos rapports avec le prochain. Imitons sa pureté. Bien sûr, c'est un ange, il est pur. Mais imitons sa pureté autant qu'il nous en est donné à nous qui sommes des hommes, en coupant avec toutes les occasions de péché, Internet, toutes les relations malsaines qui nous portent au péché. Et prions, bien sûr, la Reine des anges, afin qu'elle nous envoie Saint Tardé, Saint Michel, qu'il puisse accomplir sa mission et faire régner sur la terre de France la très sainte Vierge Marie et le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.